Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité scientifique des laboratoires de Muse, Montpellier, université d'excellence. Et aujourd'hui, nous vous branchons sur la fibre. Laissez tomber votre connexion internet, je vous parle de fibre artistique, de fibre antique, de fibre sensible. Je vous parle de fibre de lin, prélevée sur un linge mortuaire égyptien vieux de 4000 ans et sur des toiles de maître peintes au XVIIe et XVIIIe siècle. Pourquoi une telle profanation ? Parce qu'aujourd'hui, justement, les chercheurs disposent d'outils pour analyser ces matériaux sans les dégrader, et cultiver ainsi sans complexe leurs fibres scientifiques. Une équipe de chercheurs a ainsi étudié le vieillissement des fibres de lin issues du linge mortuaire et des tableaux de maître en analysant leur structure ou leur évolution biochimique grâce à des méthodes d'analyse à très haute résolution. Cela vous semble compliqué ? Pas de problème, on vous explique comment les résultats de ces analyses sur le comportement et l'évolution des performances des fibres de lin pourraient permettre d'avancer dans la conception d'écomatériaux plus durables et plus robustes, et ça c'est bien d'actualité. Ces travaux ont fait l'objet de deux publications, la première en septembre dans Nature et la seconde en novembre dans Journal of Cultural Heritage. Notre invité du jour est chercheur au laboratoire de mécanique et génie civil. Il a participé à cette étude, Olivier Arnoux. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Elle a sans aucun doute la fibre scientifique. Avec moi pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons au laboratoire Industrie des agropolymères et technologies émergentes en compagnie de Valérie Guillard qui manie elle aussi les fibres pour fabriquer des emballages alimentaires pas comme les autres. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56. 56.
Alors Olivier Arnoux, on commence toujours l'interview par des questions basiques, relativement simples. Alors un trio pour commencer. Le lin, qu'est-ce que c'est ? Depuis quand on s'en sert ? Et qu'est-ce que ça sert à fabriquer ?
Alors le lin, on s'en sert depuis au moins 8000 ans, voire il y a des traces qui ont été trouvées encore, même encore plus anciennes. Mais ce sont surtout les Égyptiens qui ont développé la culture du lin. À l'époque, on s'en servait surtout pour faire des tissus. Principalement, et puis de nos jours, ça reste une fibre pour faire des tissus qui est assez exceptionnelle en fait, et qui de plus en plus devient une fibre technique pour remplacer en fait les fibres de verre dans les matériaux composites, donc qui sont des matériaux qui sont très utilisés dans le transport pour gagner en masse et du coup diminuer la consommation d'énergie. Le problème des fibres de verre, c'est que c'est assez consommateur d'énergie et donc émetteur de CO2 pour les fabriquer. Et donc, on cherche aujourd'hui à remplacer ces fibres-là par des fibres qui ont des performances assez équivalentes, mais qui sont directement issues de la nature.
Donc, fibres végétales,
c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça, les fibres végétales en général, que ce soit des fibres de bois, les fibres de lin, les fibres de chanvre.
Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de faire des recherches sur la durabilité des fibres de lin ? Qu'est-ce que ça vous apporte comme information ?
Alors, quand on crée un matériau, il faut qu'il dure dans le temps. Généralement, on parle d'obsolescence programmée assez souvent. Quand on va construire un matériau composite pour faire une voiture ou ces fibres de lin peuvent être utilisées aussi pour faire des panneaux publicitaires allégés ou tout ce qui va tourner autour du transport en général et puis plus les panneaux publicitaires. Quand on crée ce genre de matériau, il ne faut pas qu'il dure 2 ans parce que d'une fibre de lin qu'on laisse dans la nature, elle va être biodégradée naturellement. C'est un avantage parce que du coup, ça part dans le compost et puis ça se dégrade, c'est super. Mais quand on en fait un matériau, du coup, là, on veut que ça tienne le plus longtemps possible pour éviter justement l'obsolescence programmée et avoir à refaire des nouvelles pièces, par exemple.
Justement, c'est les constructeurs qui craignent que ce ne soit pas assez solide.
En particulier, les gens qui fabriquent des fibres de verre ne sont pas très contents qu'on arrive avec nos fibres de lin. Et eux, ils disent ça ne tient pas dans le temps, ça va prendre l'eau, ça s'agorge d'eau, ça va être biodégradé, etc. Et donc, du coup, nous, notre réponse, c'est que peut-être on peut apprendre à les conserver le temps de l'utilisation. Et une fois qu'on a fini d'utiliser, on les met dans un compost et on trouve une technique pour recycler ce genre de matériaux beaucoup plus facilement que des fibres de verre.
Alors, donc, on l'a dit en introduction, la particularité de votre étude, c'est que vous avez travaillé sur des fibres bien particulières, donc des fibres issues d'un linge mortuaire égyptien daté de 4000 ans, donc on imagine qu'il est dans un musée, celui-là, et des fibres issues de toiles de maître du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi des objets aussi anciens et aussi précieux ?
Alors, parce que déjà, pourquoi aussi ancien ? D'abord, déjà, parce que on fait vieillir un matériau artificiellement. Enfin, si on veut savoir ce qui va se passer dans 20 ans, on ne peut pas attendre 20 ans. Et du coup, dans un laboratoire, on peut chercher à accélérer les choses. Et alors, ça marche souvent pas bien, surtout sur des matériaux comme ça d'origine biologique. On m'avait dit une fois, parce que pendant ma thèse, j'avais travaillé sur des vieillissements de matériaux plutôt métalliques, mais qui avaient aussi les mêmes genres de problématiques. Et on m'avait dit une fois, on ne peut pas. Si on prend un œuf et qu'on le met au four, on n'obtiendra pas un poussin plus vite, en fait. Et même, ça ne marche pas du tout, en fait. C'est juste pour dire que, quand on veut faire vieillir plus vite, on chauffe, naturellement. Mais quand on chauffe, les processus qui se produisent n'ont pas les mêmes échelles de temps que quand on les laisse naturellement vieillir. Donc, l'intérêt, c'est d'aller chercher des fibres, du coup, qui ont déjà vieilli naturellement. Et à part des objets anciens précieux, on n'a pas, accès à d'autres fibres anciennes qui seraient moins précieuses, en fait. Donc on est obligé d'aller dans les musées pour trouver ça.
Justement, comme vous le dites, ces objets, ils sont précieux, ils ont une valeur historique, culturelle importante. Mm-hmm. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir des échantillons et les analyser sans dégrader ces objets, justement ?
Alors l'avantage, c'est que les techniques qu'on a utilisées donc, dans le cadre d'une thèse, c'est dans le cadre d'une thèse d'Alessia Melelli à Lorient, en fait, que se sont passés ces travaux. Et là, on a utilisé, dans le cadre de sa thèse, elle a utilisé beaucoup de techniques qui sont des techniques très peu, qui demandent très peu de matière, en fait. C'est-à-dire quelques millimètres de fil de lin, ça suffit. Et donc ça, c'est un énorme, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage qui est énorme, c'est qu'on a besoin juste d'un petit bout de fil qui dépasse et qui sert pas et qui ne met pas en péril l'œuvre pour pouvoir faire nos analyses. Bon, le défaut, par contre, c'est qu'on a regardé qu'une seule fibre. Donc après, pour savoir si c'est bien représentatif, il faudrait pouvoir répéter l'opération, mais sans bien sûr dégrader l'œuvre. Donc là, c'est...
Vous ne pouviez pas gratter 2-3 fibres au musée du
Louvre. Si, alors peut-être un petit peu plus. Ouais. Alors, donc au musée du Louvre, effectivement, ce sont les conservateurs du musée du Louvre qui ont proposé plusieurs artefacts en fait, sur lesquels on pouvait faire un mini prélèvement. Et pour les tableaux italiens, c'est les conservateurs en Italie qui ont été chercher des fibres au dos du tableau qui était dans la partie qui est recourbée sur le châssis, en fait, donc qui n'est pas du tout en contact avec l'œuvre au départ.
Pardon, j'enchaîne, ouais. Oui, excusez-moi. Donc, on l'a dit, le but était d'étudier ces fibres sans les dégrader. Et pour ça, vous avez utilisé des méthodes d'analyse à très haute résolution.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, mais quand on parle de très haute résolution, ça veut dire qu'on va descendre dans des toutes petites échelles, donc le micromètre ou le nanomètre, en fait, et qu'on va venir analyser finement la structure des fibres. Donc, on ne regarde pas la fibre comme on pourrait... Alors déjà, une fibre de lin à l'œil nu, en fait, c'est plus petit qu'un cheveu, donc ça se voit pas beaucoup. On peut quand même faire des choses avec. Et là, on descend carrément à l'échelle de ce qu'on appelle la paroi des fibres, ce qui constitue la fibre en elle-même et sa structure interne. Et pour ça, on utilise donc des techniques qui sont capables d'avoir une précision spatiale qui est de l'ordre du micromètre, voire le nanomètre.
D'accord. Et vous, votre spécialité, c'est le microscope à force atomique.
Oui, c'est ça.
Alors, vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est qu'un microscope à force atomique et qu'est-ce que ça vous a permis particulièrement d'observer dans cette étude ?
Oui. Alors, microscope, dans l'idée, c'est de voir ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et ce qu'on appelle la force atomique, alors ça ne marche pas du tout comme un microscope classique avec un système de lentilles en optique qui vont grossir l'objet. Un microscope à force atomique, il faut voir ça comme un nano-doigt, en fait, ou une nano-aiguille. Donc, c'est une aiguille très fine dont l'extrémité fait de l'ordre de quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres. Et on vient toucher la surface du matériau avec cette fibre, un peu comme ferait un aveugle avec du braille, quoi. Donc on ne voit pas du tout ce qu'on fait, on ne sait que ce que ressent cette nano-aiguille. Et ça permet de faire plein de choses. En fait, de nos jours, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire énormément d'études à l'échelle nanométrique. Moi, dans mon cas, ma spécialité, c'est la mécanique. Donc là, le but du jeu, c'est de venir comme quand vous prenez une pomme dans la main et que vous voulez savoir si elle est mûre ou pas. Vous allez la toucher avec vos doigts et vous allez voir si c'est mou ou pas. Et donc là, on fait pareil, mais par l'intermédiaire de cette petite aiguille là qui vient toucher la surface. On vient toucher très légèrement la surface et on vient tester si c'est encore, si c'est rigide ou pas du tout. Et ça permet de voir aussi l'allure de la surface. Qu'est-ce qu'il y a en surface du matériau qu'on est en train d'observer.
D'accord. Alors, en complément, vous avez utilisé aussi d'autres méthodes d'analyse, la microscopie biphotonique, la spectroscopie RMN ou par infrarouge. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune de ces méthodes, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu globalement ce que vous cherchiez à regarder avec tous ces outils et toutes ces analyses ?
Oui. Alors là, je suis beaucoup moins spécialiste. Là, c'est sûr, c'est d'autres collègues. Chacun avait sa spécialité dans les études. Donc, toutes ces... Alors, le biphoton, c'est une technique qui est développée au synchrotron au soleil. On va en parler, je crois, plus tard. Qui n'utilise pas le synchrotron, mais qui est quelque chose qui est dans les locaux du synchrotron. Là, c'est Frédéric Jam qui s'occupe de ça. Cette technique-là, ce qu'elle permet de voir, on va dire, pour faire simple, surtout que, oui, moi, je ne suis pas un spécialiste, c'est de voir des éléments structurels à l'intérieur des fibres qu'on appelle... Les fibres de lin, c'est comme les fibres de bois, en fait. Toutes les fibres végétales sont composées de cellulose cristalline. Donc du sucre, mais cristallin en fait, qui est extrêmement rigide, qui est très très performant et qui a une particularité qui fait qu'on peut le voir quand on met une certaine lumière dessus. En fait, on peut mettre en évidence en regardant à travers la fibre ces fibres-là, ces nanofibres de cristaux de cellulose. L'ARMN, alors ça c'est l'ARMN, l'ARMN et le Raman. Alors là, je vais peut-être dire des bêtises sur l'ARMN, mais le Raman c'est sûr, ça c'est pour faire de ce qu'on appelle la spectroscopie, donc ça permet de voir la chimie en fait. Mais à des échelles micrométriques, donc savoir comment est constituée la paroi, quels sont les polymères qui sont en place. Donc c'est des polymères de sucre souvent, ou des fois il y a des noms, il y a aussi autre chose que des sucres. Donc ça permet de voir est-ce que la chimie a évolué dans le temps, est-ce que ces nanofibres de cellulose sont cassées, est-ce qu'elles ont été détériorées, et est-ce que tout ce qui entoure ces nanofibres de cellulose, les polymères qui les constituent, ont évolué dans le temps, sont configurés différemment ou sont complètement dégradés. Donc ça, c'est ça que ça permet de voir. Oui.
Alors, vous l'avez évoqué, vous avez travaillé en partenariat avec d'autres laboratoires, évidemment, et vous avez travaillé avec le synchrotron Soleil. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, un synchrotron, ouais, alors ça, c'est des grosses machines. Hein. Synchrotron, en France, il y en a deux. Il y en a un à Grenoble qui s'appelle le SRF, dans lequel, d'ailleurs, avec des collègues de Montpellier, de l'équipe Bois de Montpellier, on a déjà fait deux fois des expériences là-bas pour comprendre comment se dressent les arbres et comment se redressent les arbres, ce qu'on appelle la biomécanique de l'arbre et le bois de tension. Et à Soleil, donc là, Soleil, c'est vraiment les collègues de Lorient, donc en particulier Alain Bourmeau, qui est porteur de ce projet Flower, là, qui a permis de faire ses études, qui est en contact donc, avec Frédéric Jam au synchrotron. Alors, un synchrotron, qu'est-ce que c'est ? C'est très gros. Si vous allez voir un jour ça sur Internet, ou tapez ESRF ou synchrotron Soleil, c'est des énormes équipements. Je pense que c'est un des plus gros équipements qui existe. Le but du jeu, c'est de créer un rayonnement très, très puissant, en fait, et très, très pur, on va dire ça comme ça, qui va permettre d'analyser la matière à très, très haute résolution. Alors, pour faire ça, on fait tourner des électrons dans un anneau qui fait plusieurs centaines de mètres, et on les fait tourner très, très vite, et à chaque fois que ces électrons vont prendre un virage, ils vont émettre une énergie, en fait, dans les rayons X, par exemple, mais qui va être vraiment, par rapport à ce qu'on peut avoir en rayon X classique, on est vraiment dans des énergies qui ne sont pas du tout les mêmes, et avec ce qu'on appelle une brillance de faisceau qui est monstrueuse, et qui permet du coup d'aller à des très toutes petites échelles analyser les matériaux, et en particulier à Soleil, il y a une ligne spéciale dédiée pour tout ce qui est patrimoine historique, sur laquelle je crois d'ailleurs la Thésarde va continuer sa carrière en postdoc.
Alors, avec toutes ces études, il y a une des observations que vous avez faites, que vous qualifiez, vous, de contre-intuitive, qui est que les fibres de lin des tableaux vieux de 200 ans ont subi des dégradations plus importantes que les fibres issues du linge mortuaire de 4000 ans. C'est quel type de dégradation que vous avez observé ?
Alors, c'est principalement la partie, ce qu'on appelle donc les fibres de lin, quand on regarde ça de très près avec nos outils, on regarde ce qu'on appelle la paroi. Donc, il faut voir ça comme une paille un peu, hein, puis on va venir regarder le matériau qui constitue la paille. Alors ça fait 20 micromètres de diamètre et quelques centimètres de long. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est le petit tube qui fait à peine quelques micromètres de diamètre. Et l'épaisseur de ce tube, c'est quelques micromètres. Donc on vient regarder ça. Et donc c'est fait de nanofibres de cellulose cristalline. Et c'est entouré d'une matrice, on appelle ça. Donc ça marche comme un matériau composite, en fait. Hein, il y a une fibre de renfort et une matrice autour. Et les dégradations qu'on observe, c'est principalement la dégradation de la matrice qui est autour, qui a évolué dans le temps. Et en fait, alors la différence, pourquoi est-ce que, par exemple, les Égyptiens, il n'y avait pas trop de dégradation alors que les tableaux, il y en avait beaucoup ? La différence, c'est les qualités de conservation. Là, le linge mortuaire, il était dans une tombe en Égypte, dans un désert, donc quelque chose de très sec, très stable en température, très stable en humidité, enfermé, donc pas trop d'agents biodégradateurs pour venir manger tout ça. Alors que les tableaux, eux, ils étaient exposés comme un tableau classiquement... dans un musée, c'est pas la Joconde quoi, qu'on met vraiment dans un sarcophage, quoi, c'est un tableau classique. Plus, il y a les couches de peinture du tableau, et souvent, il y a des colles animales qui sont utilisées, qui, du coup, vont attirer les agents biodégradateurs, les bactéries, et qui vont, du coup, dégrader la fibre support qui est en dessous de la peinture.
D'accord, des colles animales. Je ne savais même pas qu'il y avait des colles animales.
La colle de lapin.
Tout ce que vous avez découvert là sur justement ce vieillissement et la durabilité de ces fibres de lin, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour envisager de le valoriser et produire des écomatériaux plus durables à l'avenir ?
Alors ça, c'est encore un sujet de recherche qui est en cours. C'est un projet qui continue, en particulier pour cette étudiante, là, Alessia Melelli, enfin, qui n'est plus maintenant, qui est docteur depuis 2 semaines. Donc maintenant,
félicitations.
Voilà, c'est ça. Et du coup, alors l'idée, c'est là pour l'instant, on manque encore d'informations pour aller plus loin. L'idée, c'est de se dire sur ces éco-matériaux, ils vont être pris dans une, donc on va prendre ces fibres de lin, on va les mettre dans une résine pour refaire un matériau composite. Donc résine qu'on espère le plus biodégradable et biosourcée possible. Alors biodégradable en fin de vie, hein, pas pendant l'utilisation, donc ça on sait faire quand même. Et du coup l'idée c'est de se dire si je suis capable de connaître comment une fibre qui est prise, qui est bien isolée dans le temps, comment elle évolue d'un point de vue propriété mécanique par exemple, donc il y a la chimie aussi de ces fibres, je vais peut-être être capable de prédire comment mon matériau va durer dans le temps et, par exemple, au bout de combien de temps il faut commencer à se dire il y a un risque que le matériau ne tienne plus ses promesses, quoi. Mais ça reste encore, il y a du boulot.
D'accord. Et cette étude, justement, donc vous allez la prolonger en travaillant sur d'autres échantillons de fibres de lin, mais à des époques différentes, c'est bien ça ?
Oui. Alors là, j'ai aucun détail là-dessus encore, moi.
On ne sait pas encore quel va être l'objet mystérieux.
Alors peut-être les collègues de Lorient savent mieux, peut-être qu'Alain Bourmois à Lorient qui s'occupe de tout ça a déjà commencé à avoir des pistes. L'idée, hein, c'est que pour l'instant, on a juste des fibres qui ont 4000 ans, des fibres qui ont 200 ans et puis des fibres modernes. Il y a déjà une première grosse difficulté qui est que les fibres qui ont poussé il y a 4000 ans n'étaient pas les mêmes que celles qui poussent aujourd'hui, parce qu'il y a eu de la sélection variétale qui a été faite depuis pour avoir des fibres qui donnent beaucoup, des tiges de lin qui donnent beaucoup de fibres pour faire des renforts de composite ou pour faire du textile, hein, tout simplement. C'est pas les mêmes variétés, c'était pas les mêmes conditions de croissance. Les Égyptiens ne traitaient pas les fibres de la même manière pour faire leurs matériaux. Enfin, ils étaient très forts. Mais il y a des techniques qu'ils utilisaient à l'époque qu'on n'a plus le droit d'utiliser de nos jours parce qu'elles sont pas très écologiques, on va dire. Parce que ça a beau être naturel, des fois, quand même, il y a des produits qui sont pas terribles dedans. Donc, du coup, là, pour l'instant, le but du jeu, c'est de remplir entre 4200 et maintenant, de rajouter des points à différentes époques pour avoir une meilleure prédiction dans le futur des propriétés.
Et dans le futur, justement, tout ce protocole et ces analyses que vous avez appliquées aux fibres de lin, est-ce qu'on pourrait envisager de les appliquer à d'autres fibres végétales ?
Alors complètement, oui, le partenaire des fibres de lin, ce sont les fibres de chanvre. Et puis moi-même, en fait, dans mes études, principalement, je travaille sur les fibres de bois, en fait. Et j'ai commencé d'abord à faire de la microscopie à force atomique sur des fibres de bois et je continue à le faire. Et le lin ou toutes les fibres végétales, ça s'applique très très bien, oui.
Alors le projet sur lequel donc, vous redémarrez en 2022, donc, c'est le projet Anubis, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Et donc ce sera ce que vous venez de nous décrire, donc
oui,
c'est ça.
C'est ça.
Et ben, merci beaucoup Olivier Arnoux d'être venu
merci
nous présenter cette étude passionnante.
Et merci.
On enchaîne maintenant donc, avec notre séquence reportage et cette semaine Aline, c'est toi qui nous emmène à l'Institut Agro.
Oui, et sur le campus de La Gaillarde et plus précisément au laboratoire IAT pour ingénierie des agropolymères et technologies émergentes. Valérie Guillard nous y accueille pour nous présenter une petite révolution dans le domaine de l'emballage avec une barquette alimentaire qui ressemble à s'y méprendre à du plastique, mais en version totalement biodégradable.
Je suis professeure à l'Université de Montpellier et en recherche, je travaille sur le développement d'emballages alimentaires durables, innovants, pour lutter un petit peu contre la pollution plastique.
On est devant la porte du laboratoire de chromatographie. On entend beaucoup de bruit en rentrant dans ce laboratoire. Ça correspond à quoi ?
Alors là, on a plusieurs gros appareils qui tournent, donc des chromatographes. Hein, et on les utilise notamment dans des dispositifs qui nous permettent de mesurer la perméabilité de nos emballages alimentaires.
Donc là, vous avez dans la main un emballage marron qui ressemble furieusement à une barquette en plastique.
Alors, on peut dire que c'est un plastique, mais en fait, ça va être un bioplastique, un plastique qui va être fabriqué à partir de résidus, de déchets agricoles, agroalimentaires. Ce sont des petites bactéries qui vont synthétiser la matière et qui vont pouvoir produire le polymère que l'on utilise. Et on le mélange, nous, avec de la fibre de paille broyée. Ça va nous donner ce qu'on appelle un matériau composite qu'on a pu mettre en forme, donner cette barquette qui est marron foncé. Et ce qui est très important pour nous après, c'est que cette barquette, elle, conserve le produit qu'elle est destinée à contenir. Et pour cela, on mesure cette fameuse perméabilité de l'emballage aux petites molécules que l'on trouve dans l'air, donc l'oxygène, le dioxyde de carbone, etc.
Et comment vous y prenez pour mesurer cette perméabilité ?
Alors, on a tout un système de cellules de perméabilité qu'on peut voir là, dans lequel on va pouvoir positionner un petit morceau de cet emballage qui va être alimenté par des flux de gaz. Donc, vous voyez ici tous les débitmètres.
Alors, je décris ce qu'on a. Moi, voilà, on parle d'usine à gaz. Moi, je vois des fils de partout. ça correspond à quoi ?
Une usine à gaz. Donc, il va falloir envoyer un flux de gaz, le flux d'oxygène qui va perméer à l'intérieur de la cellule pour pouvoir passer, le forcer à passer à travers l'emballage. Et on va après doser la quantité de ce gaz qui est passé à travers ce matériau. Et on le dose grâce à ce chromato qui fait le bruit que l'on entend là.
On met la barquette dedans, c'est ça ?
Pas du tout. La barquette, elle est dans la cellule de perméabilité. On va la découper. On va mettre un petit morceau dans cette cellule.
C'est une partie de l'emballage que vous testez, pas l'emballage en entier ?
L'emballage en entier, pas sur cette propriété-là. L'emballage en entier, on va voir après comment le tester. Voilà, donc on met un petit morceau là. Voilà. Et c'est ce qui va sortir un petit peu de cette cellule de perméabilité qui va être dosée après par l'appareil, le chromato qui va récupérer le flux de gaz sortant.
Et qu'est-ce qu'il doit avoir comme propriété pour être efficace comme emballage ?
En fait, les aliments, ils sont sensibles aux altérations, et ces altérations, elles peuvent provenir des micro-organismes qui se développent, des micro-organismes qui sont en provenance de l'atmosphère, de l'environnement extérieur, mais on a aussi une grande influence des gaz atmosphériques, et notamment l'oxygène, parce que sans oxygène, les micro-organismes ne respirent pas et ne se développent pas. Il y a aussi toutes les réactions d'oxydation qui peuvent être limitées si on enlève l'oxygène de l'emballage, donc c'est très très important pour nous de contrôler cette propriété de perméabilité à l'oxygène.
Comment est-ce que vous arrivez à voir ce qui circule ou pas en termes de perméabilité ?
Alors on va avoir ce qu'on appelle un chromatogramme qui va nous donner un petit peu, on va avoir tous les pics qui vont caractériser la composition du flux de gaz qui sort et qui est passé à travers finalement notre emballage. Et on a notamment un pic qui correspond à l'oxygène, on le voit noté ici.
Donc là, vous arrivez à voir si l'oxygène circule à travers l'emballage.
Et en fonction de la hauteur de ce pic et puis de l'air de ce pic, ben, on a une quantité d'oxygène correspondante.
Et vous faites la comparaison avec les emballages plastiques traditionnels ?
Bien sûr.
Et donc pour l'instant, vous arrivez à quelque chose d'équivalent ? Comment ça ?
On est sur quelque chose qui est très performant sur ce type de matériaux. Celui-là, en tout cas, on peut envisager des applications pour conditionner du fromage frais, de la viande, des conditionnements sous atmosphère modifiée. Que l'on va remplacer l'atmosphère à l'intérieur de l'emballage par une atmosphère qui est inerte. C'est-à-dire qu'on enlève celle qui est équivalente à l'atmosphère extérieure qui contient de l'oxygène et on remplace par quelque chose qui va permettre de mieux conserver le produit.
Alors, où est-ce qu'on est là ?
Alors, on est dans un deuxième laboratoire où là, on va pouvoir, une fois qu'on connaît notre propriété de perméabilité sur le matériau d'emballage, on va vouloir tester notre emballage et faire ce qu'on appelle des tests de durée de vie avec des aliments. Donc on a ici ce qu'on appelle une thermoscelleuse, donc on va pouvoir, ou une barquetteuse, où on va pouvoir finalement fermer nos barquettes.
Donc je décris, on a un espèce de tiroir où on a deux emplacements pour mettre la barquette et un film qu'on peut dérouler par-dessus, voilà. C'est ça ?
Et donc la machine va pouvoir, en chauffant, permettre au film de se sceller sur la barquette qui va être fermée. Alors bien sûr, on a mis l'aliment avant. On peut injecter les gaz que l'on veut. On a parlé d'atmosphère modifiée tout à l'heure. Bah, c'est ça, en fait, l'atmosphère modifiée. On va enlever l'atmosphère qui avait à l'intérieur de cette barquette et la remplacer. Donc, d'où cette pompe et l'injection de gaz.
Ah oui, il y a une grosse pompe rouge qui est à côté de la machine.
Voilà, et une fois que l'on a fermé, scellé enfermé notre aliment finalement dans son...
N'importe quel type d'aliment, qu'est-ce que vous mettez dans celui-là par exemple ?
Non, dans ce type de matériau, on a dit produits frais, type fromage, produits de la viande fraîche, etc. Donc des produits frais conditionnés sous atmosphère modifiée. Après, on a comme des grands frigos, ce que nous on appelle des étuves, où on peut contrôler la température très précisément de stockage. Donc on va stocker et on va simuler des conditions de stockage des aliments que l'on peut rencontrer dans une chaîne logistique, grande distribution, petit magasin, consommateur, etc.
Vous reconstituez le parcours d'un aliment ?
Tout à fait, on reconstitue ce parcours. Et après, ce qui est important pour nous de vérifier cours de cette simulation, c'est que l'atmosphère que l'on a injectée, cette fameuse atmosphère modifiée que l'on a injectée à l'intérieur de la barquette, bah, elle est bien pérenne, c'est-à-dire qu'elle se conserve tout au long de la durée de stockage du produit. Et pour ça, on a cet autre appareil qui est aussi un chromatographe, mais un micro, ce qu'on appelle nous un micro-GC, qui permet de faire une analyse aussi de gaz, mais à l'intérieur de l'emballage. Donc on a une petite seringue
ponctionner l'air à l'intérieur
que l'on va pouvoir, effectivement ponctionner à l'intérieur de l'emballage une toute petite quantité de gaz que l'on va pouvoir analyser. Même principe que tout à l'heure, on va avoir un chromatogramme qui va nous donner la quantité d'oxygène, de CO2, d'azote que l'on a dans notre atmosphère modifiée. Ça, c'est très important pour nous pour vérifier l'aptitude de nos emballages à la conservation des produits.
Et pour l'instant, par rapport à tous ces tests que vous avez effectués, comment ils sont aptes, ces emballages, à conserver les produits ?
Tout à fait. On a des très bons résultats. On peut complètement envisager de remplacer les emballages existants en plastique conventionnel, pétro-sourcé, par ces nouveaux emballages plus durables. On a vraiment les mêmes durées de vie, voire des durées de vie plus un petit peu améliorées, grâce aux très bonnes propriétés barrières de notre matériau.
On rentre dans un nouveau laboratoire qui est le laboratoire de chimie. Alors, qu'est-ce qu'on vient vérifier ici ?
Alors, ici, on voit des petites cellules avec plein de petites pastilles de matériaux qui sont mises à tremper dans un solvant, un simulant. Donc là, on va tester l'aptitude au contact alimentaire de nos contenants.
Dans la mesure où il y a des aliments dedans, il ne faut pas que ce soit potentiellement problématique pour la santé des consommateurs.
Et la réglementation l'impose, on doit contrôler que la migration de constituants, la diffusion de petites molécules de notre emballage vers l'aliment soit très faible et en deçà d'une certaine limite qui est fixée par la réglementation. Donc ça, on le vérifie à l'aide de ces petites cellules de diffusion, cellules de migration.
Et quel résultat vous avez du coup sur ces emballages ? Ils sont aptes ?
Oui, bien sûr.
J'arrive devant une boîte en métal dans laquelle il y a, qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a de la terre, du compost mature, donc dans un état avancé. Parce qu'on travaille sur des emballages qui sont, on a parlé de bioplastique, biosourcés, issus de déchets, mais ils ont l'avantage majeur d'être biodégradables en conditions naturelles, dans le sol, mais également dans le compost domestique, donc celui que vous pouvez avoir dans votre jardin. Et donc ça, c'est un atout majeur de ce type de matériaux, parce que c'est vraiment pour ça qu'on va pouvoir lutter contre la pollution plastique, et notamment le problème des plastiques persistants dans l'environnement. Et donc, on teste aussi leur aptitude à la biodégradation en fin de vie, en plongeant des morceaux de cet emballage dans une certaine quantité de terre ou de compost, et on va pouvoir suivre au cours du temps. Alors c'est assez long, hein, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, 1 an de mesure, mais on va suivre leur état, l'avancement de leur dégradation au cours du temps. Dégradation qui se fait grâce à ces micro-organismes du sol.
Et qui est efficace, c'est-à-dire qu'il est complètement compostable, cet emballage ?
Ah, complètement. À la fin, il ne reste plus rien.
Et est-ce que ce sont des emballages qu'on peut trouver pour l'instant dans le commerce ou pas encore ?
On ne trouve pas encore ces emballages sur le marché, donc on est encore à l'étape de prototypage, de recherche, donc on a encore quelques études à faire dessus pour améliorer un petit peu leur fonctionnalité et pour pouvoir envisager une production à grande échelle, donc avec de très grandes quantités, puis pour pouvoir les utiliser après en industrie à l'agroalimentaire, il faut une certaine résistance mécanique notamment, qui reste à améliorer.
Et on a une idée de dans combien d'années on pourra les voir sur le marché ?
Si ça continue sur cette lancée, si ça marche bien, je dirais d'ici 2 ans, on pourrait avoir des premières applications, 2-3 ans, premières applications sur le marché de ce type de matériaux.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.